Sud Radio 10h midi, Valérie Expert.
Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi, Zone Interdite dimanche prochain propose un document exceptionnel, un document très fort. À 15 ans, ma fille se prostitue. Clarisse Verrier, bonjour, vous êtes la réalisatrice de ce documentaire.
Bonjour.
Maître Margot Bourbier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes l'avocat de l'une de ces jeunes femmes qu'on suit pendant le documentaire. Elle s'appelle Stella dans le documentaire et elle va nous rejoindre. Elle a été prostituée quand elle s'est prostituée quand elle avait 13 ans. Et c'est vrai que c'est un phénomène de ce que vous avez pu percevoir, qui est en pleine expansion, prostitution d'adolescentes, les réseaux sociaux, c'est une nouvelle forme de prostitution. Il y a environ 10 000, c'est ça, 10 000 jeunes, 10 000 jeunes femmes qui se prostitueraient.
Oui, ça, ce sont les chiffres
officiels
qui remontent, qui remontent via les associations. En fait, on manque cruellement d'études parce que, par définition, c'est difficile de faire une étude, mais a priori, c'est ça. C'est autour de entre 8 et 10 000 filles, mais ça augmente.
Alors, comment on réalise un documentaire comme celui-là pour expliquer à nos auditeurs ? C'est pas évident d'avoir des jeunes femmes qui témoignent.
D'abord, il faut prendre son temps.
Ouais.
Il faut se dire qu'on se lance dans une aventure chronophage, mais pour la bonne cause. Il faut s'adapter, absolument. Il faut accepter d'être planté lors des interviews. Et puis, il faut aller à la rencontre, aller voir tout type de personnes qui commencent à parler. Il faut vraiment pouvoir déclencher un tournage. Il faut s'adapter.
Ce qui est absolument glaçant dans votre documentaire, c'est à la fois la facilité avec laquelle elles arrivent dans ce fléau, le désarroi des parents. Vous avez plusieurs mères qui témoignent et qui sont totalement démunies face à ça.
Oui, en fait, on trouvait avec l'équipe de Zone Interdite et l'équipe de Ligne de Front et moi-même, en creusant le sujet très vite, on s'est rendu compte que forcément, ce sont des adolescentes, donc il y a des parents derrière. C'est pas juste des filles qui sont au foyer, c'est pas vrai, c'est pas que ça. Et des parents qui se battent. Donc, quand on entend les gens qui sont pas encore sensibilisés au problème et qui disent « Non, mais moi, ma fille, si elle fait ça, je vais la chercher »,
oui.
Les parents qui sont confrontés à ça sont des gens, ne sont pas tous des gens qui vont démissionner, pas du tout.
Non, non.
Et donc c'est là-dessus que je voulais insister.
Cette maman qui va la chercher, qui l'appelle et,
ouais.
qui hélas n'y arrive pas.
En plein tournage, qui l'appelle, voilà.
Parce que le plus surprenant, c'est que ces filles sont volontaires, entre guillemets.
Oui, elles sont consentantes. Enfin, c'est
oui, c'est compliqué.
Oui, cette notion, elles sont sous emprise quand même. C'est ça qui est compliqué.
Oui, maître Bourbier.
On a l'impression qu'elles sont volontaires. On a l'impression qu'elles sont matures, mais en fait, elles le sont pas du tout. Elles sont à la fois sous l'emprise d'une vie qu'elles ne pensaient pas pouvoir avoir à cet âge-là, et elles sont aussi amoureuses. Le problème, c'est que le béton de ce nouveau type de proxénétisme, c'est les sentiments, parce que c'est un peu la relation mec-mac. Elles ont l'impression que elles sont amoureuses et qu'elles font ça parce qu'elles le veulent, mais en fait, elles sont trop jeunes et elles sont complètement tombées dans un engrenage dont elles n'arrivent pas à sortir.
Et on a l'impression qu'elles sont aussi dans le déni, forcément.
Elles sont
pour
complètement
pouvoir
dans
faire
le déni.
Ça, elles sont forcément dans le déni.
Oui, et puis même quand il n'y a plus forcément de sentiments, parce qu'on voit qu'effectivement ça commence avec des histoires de copains, de copines, etc. Mais très vite, c'est quand même aussi dépassé par des clients. Et on a cette jeune...
jeune Stella qui est en train d'arriver.
On a Stella qui arrive, qui nous raconte que justement, à un moment, quand elles sont jeunes, elles ont besoin de chiffrer et d'enchaîner, d'enchaîner les passes. Parce qu'il y a un côté presque performance de rentrer dans un autre univers, en fait, de se dire ce n'est pas de la prostitution.
Oui, c'est ça. Alors, Stella est en train d'arriver, justement, et essayer de comprendre comment on tombe dans ce piège. C'est assez facile, en fait. Snapchat, les réseaux sociaux, en fait, facilitent les choses. Bonjour Stella, vous avez aujourd'hui 19 ans.
Oui.
Vous avez commencé à vous prostituer, vous aviez 13 ans. Vous témoignez dans le documentaire et effectivement, on voit que ça va très vite et que vous tombez dans cette espèce de cercle vicieux, si je puis dire, de l'argent facile.
Oui, c'est ça. Quand on est mineur, on a tout de suite... On voit tout de suite l'ouverture pour les filles, tout de suite, la prostitution, les petites choses.
Oui, mais vous dites, c'est pas de la... je ne sais pas si c'est vous dans le documentaire, mais vous dites, c'est pas de la prostitution, c'est de l'escorting.
Oui, enfin, voilà.
Elle dit tout ça,
oui,
parce qu'elles ont l'impression que c'est pas du tout la même chose, en fait.
Oui, après, oui, c'est vrai que c'est pas la... Pour nous, c'est pas vraiment dite la même chose, mais d'un point de vue extérieur, c'est dit de la prostitution, quoi.
Ben oui, mais pour vous, pourquoi c'est pas de la prostitution? Vous vendez votre corps, c'est la définition, peut-être que maître...
Bah, c'est ce qu'on essaie de leur faire comprendre en audience pour essayer de voir, mais elles disent qu'elles, c'est de la prostitution de luxe. Elles se mettent dans un esprit différent parce que c'est plus classe. Ouais. C'est plus... Et ouais. Ça permet peut-être d'accepter plus facilement la chose.
Oui, c'est vrai.
C'est là, oui.
C'est une forme, oui, pour accepter la chose. Mais bon, c'est vrai qu'avec le recul, on le voit mieux.
Ouais.
Que oui, c'est en effet de la prostitution.
Moi, je voulais savoir, la première fois on vous le propose, est-ce que vous n'avez pas de tabou avec le sexe? Est-ce que vous avez une barrière? Ou c'est quelque chose que vous avez intégré très jeune? Parce que vous avez 13 ans. À ce moment-là, le sexe, ça représente quoi pour vous? L'acte sexuel, j'entends.
À ce moment-là, pour moi, c'était juste un outil comme un autre, en fait. C'est pas très beau à dire, mais bon, pour moi, c'était un outil de travail, limite, à cette époque-là. Et...
Mais il n'y a pas de tabou, en fait. On est déjà sexualisé
si,
à 13 ans.
Quand même, à limite, quand même, je limitais, on va dire, selon ce que mon corps pouvait faire ou non. On va dire ça comme ça. Ouais. Je pense que c'est pareil pour la plupart qui l'ont fait aussi.
Ouais. Mais avec cette idée de gagner de l'argent, ce qui ressort du documentaire Clarisse Verrier, c'est ça, et des témoignages, c'est de se dire, même quand c'est difficile, on se dit, bah, je vais gagner, et à la fin de la journée, j'aurai 2000 euros.
Oui, il y a une motivation, il y a une...
C'est ce qu'elle nous avait dit quand on était au cabinet, je lui avais dit, est-ce qu'il n'y a pas de dégoût parfois?
Oui, c'est ça.
Comment vous faites les filles pour supporter ça? Elle disait, bah, on attend d'avoir...
Voilà, le gain.
Le gain.
Et justement, un extrait, Valérie, du documentaire au sujet du gain.
En une journée, je te fais 2600, 2700, c'est un salaire. En 15 jours, j'étais capable de faire 90 000 euros. Je faisais tout, j'avais aucun tabou. Je faisais de tout, mais vraiment tout. C'était des sommes qu'on voyait. C'est pour ça que je dis qu'ici, c'était quelque chose.
Voilà. C'est effectivement, 90 000 euros, c'est colossal.
Pas rien.
C'est pas rien. Et vos parents l'ont découvert comment?
Par la suite, avec les jugements et les choses comme ça. Puis ça se voit, on se renferme quand même. Un petit peu, ils avaient le doute. Avec le temps, on se renferme, on est dans nos chambres, on essaye de faire notre petite vie comme si ça marche bien. Mais à un moment donné, la réalité, elle nous rattrape un petit peu.
Et vous avez été très vite prise en charge. Parce qu'on dit proxénétisme, parce qu'il y a des hommes qui sont derrière et qui récoltent de l'argent. Vous n'êtes pas toute seule dans ce...
Oui, pour la plupart, oui. Enfin, j'ai envie de dire...
Toutes,
oui. Surtout quand elle commence.
Et rappelle-toi, la seule fois où tu as voulu sortir du réseau et le faire toute seule, ça s'était pas très bien fini.
Ouais.
Ils sont venus la récupérer à coups de batte de baseball. Ouais. Parce qu'elle leur appartient.
Mais comment ça se passe, le processus, peut-être, Clarisse Verrier, de tout le point commun à toutes ces jeunes filles? Jeunes, hein, 13, 14 ans.
Voilà, c'est pour ça qu'il faut quand même absolument avoir un recul ou des regards d'experts. Il y a quand même une pédopsychiatre qui explique que les enfants et préadolescents et adolescents, le rapport au corps, spécialement pour certaines personnes qui ont déjà subi des violences antérieurement, familiales, pas forcément sexuelles, etc., fait l'objet d'une sorte de séparation, en fait. C'est des filles qui peuvent comme ça avoir des rapports sexuels, mais sans le relier forcément à leur... en se déconnectant. Elles sont déconnectées, en fait. Donc, il faut absolument faire ce contrôle.
Dit la pédopsychiatre. Voilà. Il en reste forcément des...
Et toutes les petites qui témoignent après ça, elles parlent d'une dissociation pendant l'acte sexuel.
Oui, on est vraiment en dissociation. C'est un simple acte et c'est pour pas... Enfin, c'est pas plus, quoi, en gros.
Et ça, c'est typique de justement ce qui peut se passer. C'est pour ça que les adolescentes sont des proies. Parce qu'effectivement, c'est pas du tout une sexualité assumée, c'est pas du tout, c'est une sexualité qui est instrumentalisée par les proxénètes. Et on parle Stella était très émouvante parce qu'elle a dit à un moment qu'elle voulait utiliser son corps pour être presque libre de faire ce qu'elle voulait. On a affaire aussi à des proxénètes qui on est passé de dealer de shit à dealer de filles.
Ce que vous dites dans le documentaire, ça rapporte plus, c'est moins risqué. On va en parler avec vous sur.
Il y a beaucoup de violence.
Ils sont jeunes en plus, ces proxénètes.
Ils sont jeunes. On a l'impression que c'est des copains, c'est absolument pas des copains. Et vous demandez comment Stella a été tombée, mais il y a quand même il y a des enquêtes, il y a la justice, heureusement. Et je crois que même l'association qui a ta prise en charge t'a découverte parce que tu parlais lors d'une audience que tu es venue sans prévenir et tu étais dans l'audience, dans le public, et puis à un moment,
en fait, dans ce dossier, on avait pas.
Enfin, Stella était là.
En fait, ce qui est dingue, c'est quand on plaide ces dossiers-là. Normalement, moi, je plaide pour l'association, qui est les équipes d'action contre le proxénétisme. L'objectif, c'est que on se constitue partie civile pour avoir des fonds pour pouvoir aider les filles, leur donner de l'argent pour qu'elles sortent de la prostitution. J'ai normalement quasiment jamais de victimes dans ce type de dossier. Les filles ont peur, ou alors les filles sont encore dans le déni. Et là, ce dossier, il m'avait bouleversée parce que il y avait une petite jeune fille de 13 ans qui était repérée dans le dossier. Et à l'audience, il y a une jeune fille au fond de la salle qui est assez agitée. Et donc le président dit « Mais mademoiselle, vous êtes dans le dossier ?» Et là, elle arrive et dit « Bah oui, je suis Stella, je suis dans le dossier. » Et donc là, on tombe tous des nues, dit bah, venez mademoiselle, venez vous asseoir. Et c'est comme ça que nous, on découvre Stella et qu'on commence à la prendre sous notre aile. Donc c'était.
Et pourquoi vous êtes allée alors à cette audience ?
Bah, en fait, j'ai réfléchi et moi, personnellement, je me dis que vaut mieux pas avoir peur de gens ou de qui que ce soit, en fait, tant qu'on sait ce qu'on fait.
Il y a eu des représailles après ?
Non, il n'y a pas eu de représailles, mais bon, ça ne veut pas dire qu'ils n'avaient peut-être pas l'intention ou quoi, mais j'ai fait attention et j'ai fait en sorte que...
C'est l'arrestation qui a été le déclic pour toi ? Parce qu'on ne sait pas le déclic pour les filles de cette sortie, c'est ça qui est intéressant.
Bah, moi, ce qui m'a fait venir, en tout cas ce jour-là, c'est le fait d'avoir parlé entre nous toutes, en fait, on s'est tous un peu parlé, enfin, on s'est, comment dirais-je, un peu chacune... On a chacune un peu dit notre ressenti et chose qu'on n'a jamais fait entre nous, en fait. Chacun a fait ce qu'il avait à faire.
Vous
chacun disait,
fière,
bah, j'ai eu tant, voilà, moi j'ai eu tant d'argent et toi, oh, bah, viens, on fait ça, ceci. C'était limité à ça, les dialogues. Ouais. Alors que là, passer tout ça, c'était plutôt, mais toi, ils t'ont fait quoi? Mais ah ouais, toi aussi, ah, mais t'as eu ça, mais ils t'ont pris de l'argent, mais toi, ils t'ont fait du mal. Ouais. Et c'était plein de choses, en fait, qu'on savait pas chacune
et
les unes des autres.
Aujourd'hui, lorsqu'on gagne autant d'argent, comme on a entendu dans l'extrait, il vous en reste où, entre la cocaïne, le mac et autres, en fait, finalement, on gagne de l'argent facilement, mais on le perd aussi facilement, ou il vous reste quand même quelque chose?
Non, on le perd aussi facilement. On peut pas changer le système.
Et c'est difficile de travailler, je ne sais pas si vous travaillez, mais de passer à un salaire de peut-être 1500 euros, 2000 euros par mois,
non,
quand on a gagné ça.
Au contraire, ça me donne la valeur de l'argent. Avant, je n'avais pas la valeur de l'argent. J'utilisais dans tout et n'importe quoi, et là, j'ai la valeur de l'argent.
Et vous pensez que vous pourrez tomber amoureux des hommes ou ça vous a donné une image de l'homme qui fait que ça sera très compliqué d'avoir une vie amoureuse?
Ça m'a donné une certaine image de l'homme, mais ça ne veut pas dire que je ne peux pas tomber amoureuse. On sait que certains hommes sont manipulateurs, mais à chacun son degré, on va dire.
Parce que vous les comprenez, ces adultes qui ont été avec vous, ou vous les haïssez, ou quel regard vous avez sur ces clients est-ce qu'ils savaient que vous étiez mineure ou
un
pas?
Un dégoût, en fait, oui, parce qu'on est parti comme entre guillemets, une base de confiance, comme l'avait dit Clarisse. On a l'habitude de se rencontrer en soirée ou des choses dans le genre.
Là, je parle de vos clients.
Ah, les clients.
Les clients.
Sans plus, j'ai essayé de faire ça très rapidement. Surtout qu'on choisit pas forcément qui, quoi. Oui. Donc, les âges ou les origines. On essaye de faire ça très, très rapidement.
Clarisse Verrier.
Moi, ce qui m'a frappée en réalisant ce documentaire, en écoutant Stella et les témoignages des autres filles, c'est justement de se rendre compte que c'est des prostituées adolescentes qui sont sur le marché, mais les clients sont les mêmes que les... Ouais. Si on leur disait, tu sais qu'il y a des ados parmi les prostituées, ils diraient, non, mais moi, jamais. Mais bien sûr que si, en fait, il y a de plus en plus d'adolescents.
Mais ils le savent, d'après vous,
mais
ils
s'en rendent compte,
qu'ils sont
d'après mineurs. Ce que racontent les témoignages des filles, qui racontent ça à leur mère, souvent, il y en a pas mal quand même qui s'en rendent compte. Et il y a une séquence dans le film où Stella discute avec une de ses copines dans un appart-hôtel. On est retourné sur les lieux, sur un des au lieu de prostitution pour elle. Et toutes les deux, elles discutent. Elles disent parfois, qu'est-ce que tu faisais, toi, quand un client mineur t'appelait? Parce que parfois, il y a des jeunes qui appellent pour se faire déniaiser, entre guillemets. Et donc, c'était assez marrant. Parce qu'il y en a une qui dit, ah non, moi, je ne prends pas les mineurs. Non. Et Stella, c'était ton amie. Et Stella dit, bah, moi, je prends les mineurs. Et donc, il y a ce sonore.
Je suis mineure, je ne vais pas faire semblant par rapport à ma conscience. Enfin, je ne me mens pas à moi. Même,
non, c'est terrible. Vous dites, et puis s'ils savaient que moi-même j'étais mineure,
c'est surtout ça.
Voilà.
Mais faut pas se mentir à soi-même.
Qu'est-ce qui risque ces proxénètes? Il y a des images terribles dans le documentaire où on les voit sortir en disant
en fait,
j'ai rien eu, j'ai rien pris.
Je trouve que la vraie difficulté en fait de ce proxénétisme dit de cité, qui en fait n'est pas du tout de cité, parce que maintenant il faut savoir que ça peut toucher toutes les catégories sociales professionnelles. Le vrai souci, c'est que c'est pas forcément des gens qui ont des casiers, hein. Parfois c'est des primo-délinquants, c'est des audiences qui sont des instructions souvent qui sont très lourdes à mener parce qu'ils sont très mobiles comme le regrettent tous les services de police. Ils empruntent en fait les codes du gros banditisme. Ils ont des portables qui sont mobiles tout le temps. Et donc les enquêtes sont si longues qu'en fait les audiences arrivent bientôt 2-3 ans après le réseau, après la fin du démantelage du réseau. Donc en fait, nous, on arrive à l'audience, on a souvent des jeunes garçons qui, en fait, n'avaient pas de casier. Depuis, ils sont sortis de ça, ils ont un boulot, ils ont... Et donc, en fait, pour eux, la sanction, elle ne peut pas être comprise, parce que c'était il y a 3 ans, ils se sont reconstruits. Et très bien pour eux, mais moi, ce que je plaide dans ce genre de dossier, c'est super, les garçons, vous êtes reconstruits, c'est très bien pour vous. Mais en face, vous avez des jeunes filles qui sont détruites à vie. Et leur reconstruction, elle ne pourra pas se faire comme ça.
Vous aimeriez quelle peine pour eux?
Moi, j'aimerais que, en fait, alors... Je pense que la prison, c'est une peine qui est pédagogique pour personne. Heureusement, et depuis une loi de 2016, on est en train de favoriser, ça c'est pour les clients, des stages de prévention, où en fait, et moi je les ai animés, ces stages de prévention.
Des stages de prévention, pour les clients
Pour les clients, maintenant, il n'y a que le barreau de Fontainebleau. Dans
ça veut dire, je suis client, je
suis client, je suis interpellée en forêt de Fontainebleau.
Je suis interpellée,
il y a une DPM.
Je vais bientôt être client, je vais aller faire un petit stage.
Et je suis rarement interpellée quand même.
En forêt de Fontainebleau, il faut dire qu'ils sont très actifs. Et là, on intervient avec les
ESCP. France, à peu près,
voilà. Et là, c'est pour eux, déjà, c'est une honte. C'est-à-dire qu'en deux jours, ils sont face à des jeunes prostituées. Moi, quand j'interviens avec les EACP, souvent, il y a des jeunes filles comme toi qui sont là. Et quand elles leur parlent, c'est un choc pour certains. Hein, quand elles leur disent « Mais vous me dégoûtez, j'avais envie de me fermer les yeux. » Elles parlent de l'éponge dont tu nous as si souvent parlé. Vous savez, j'ai des relations sexuelles. Parfois, j'ai mes règles et je mets une éponge pour pas que vous le voyez. Et je vois que pour ces hommes-là, c'est une vraie prise de conscience. Après, pour ces jeunes proxénètes qui sont reconstruits, je pense que l'incarcération, c'est pas une solution. Ça va détruire leur avenir. Mais le problème, c'est que j'entends aussi le désarroi des familles qui ne comprennent pas que les garçons ressortent et elles ont peur des pressions qui peuvent arriver sur les filles. C'est vraiment je rejoins beaucoup de professionnels du milieu qui disent que c'est avant tout la prévention qu'il faut faire. Il faut éviter que tout ça arrive, que les garçons se disent que c'est juste des auto-entrepreneurs qui aident les filles. Ouais. Non, vous les détruisez, vous soutenez ça, quoi.
Mais les filles aussi, il y a peut-être de la prévention à faire et d'alerter sur... Parce que c'est une prostitution qui, encore une fois, a changé avec aussi une hypersexualisation. On parle de la télé-réalité, on avait eu ce débat avec Gilles, où moi je pense que ça a fait un mal fou à toutes ces jeunes femmes qui voudraient être ces héroïnes et à ces valeurs.
Bah, Stella aussi rêvait un peu à un moment, quand elle était plus jeune, de ça, parce qu'en fait, les filles se disent, tiens, via le sexe et via cette polyaddiction, on va accéder à un monde facile. Et ça, évidemment que ça marche pour des préadolescentes et pour des adolescentes. Mais en réalité, vous parliez de comment faire la prévention. Je crois qu'en fait, il faut mobiliser l'éducation, la santé, la justice. Enfin,
il y a un moment global. Il y a un moment où il y a une des jeunes filles qui va à la brigade des mineurs et visiblement, il n'y a pas de suite. Ça m'a sidéré.
Ça arrive quand même.
Ils sont quand même de plus en plus réactifs maintenant. Voilà.
Ils sont de plus en plus réactifs, mais le problème des enquêteurs, c'est ce qui est soulevé dans le sujet, c'est toujours ce problème de porosité entre amitié, victime, violence, et donc ce qui est important aussi, c'est de faire de la pédagogie pour ces enquêteurs. Il y a des médecins qui sont en train de travailler avec les enquêteurs pour justement décrypter un discours d'une fille qui est légère, qui se marre, et en fait qui a eu je sais pas combien de clients, qui a subi des violences et qui continue de dire non mais en fait c'est mon corps, mon choix. Ça fait mal au cœur d'entendre ça. C'est-à-dire qu'elles ont l'impression de s'émanciper, qu'elles sont libres, elles ne veulent pas de problème. Et du coup, elles n'aident pas les enquêteurs.
Ce qu'on voit dans le documentaire, c'est que c'est extrêmement difficile d'en sortir, que beaucoup rechutent, veulent s'arrêter et repartent.
Moi, ce documentaire, il devait être diffusé il y a plusieurs mois, avant le confinement. Donc, par définition, c'est un documentaire chronophage, mais même le temps de diffusion a été long et ça a permis aussi de comprendre, de voir le destin de ces filles. Bon, la fin de mon tournage est fidèle à ce qui se passe aujourd'hui, si ce n'est que celles qui rechutaient régulièrement rechutent régulièrement, même si on a eu une phase d'espoir avec le confinement où ça a calmé le jeu. Je peux vous confirmer que non, en fait, pas du tout. Et donc, c'est la même chose, sauf qu'elles ont un an de violence en plus à leur jeune âge. Donc, c'est dramatique, c'est très difficile d'en sortir pour les filles. Donc, ce qui m'a plu, moi, c'est que vraiment, toutes disaient, on témoigne, et on a le courage de témoigner, parce qu'elles sont anonymisées, mais quand même, pour que d'autres filles ne plongent pas.
Qu'est-ce que vous pourriez dire à ces adolescentes? Alors, j'ai deux questions. C'est souvent Snapchat ou les réseaux sociaux, en fait, qui ont facilité la prostitution, et qu'est-ce que vous pourriez dire à ces filles qui seraient tentées?
Que ça vaut pas le coup, en fait, que c'est qu'un temps. Ça marche vraiment qu'un temps. Et même si on s'en rend compte tard, mais vraiment tard, à un moment donné ou à un autre, on va s'en rendre compte. Ça marche vraiment qu'un temps. Ça fonctionne pas comme ça, en fait. On peut pas jouer avec la nature, en fait. On peut pas la dérégler. C'est pas comme ça.
C'est pas normal. C'est ce que vous leur dites aussi, c'est pas normal de faire ça, contrairement à ce qu'on peut voir. Parce que ce qui est frappant dans le documentaire, c'est la désinvolture avec laquelle vous en parlez toutes. Et ce côté c'est ce que dit un peu la pédopsychiatre à la fin. C'est-à-dire qu'il y a un côté petite fille en chacune d'entre vous qui est assez incroyable. C'est-à-dire que vous faites des choses d'adultes. C'était qui vos proxénètes
comment vous êtes, enfin, je ne demande pas les noms, non, mais à partir du moment où vous avez décidé, c'était des copains, c'est des gens qui vous ont contacté, comment c'est...
Non, c'était, c'était des amis un peu côté, je dirais, des clubs, des boîtes, des choses comme ça, ouais. Des gens de la nuit, en gros, qui aimaient bien sortir. Et bah, j'avais une copine qui était aussi branchée de la nuit, donc c'était ses amis, et après... Bah,
et puis certaines deviennent rabatteuses hein, aussi.
Tu,
en
tu
plus,
me disais c'est... que dans ton groupe, dans tes Maître copines, Bourbier. Quasiment tout le monde l'avait ouais. fait. Ouais. Oui, à un moment, tu me disais autour de fait, moi, il n'y a quasiment personne qui ne l'a jamais fait. Donc en fait, c'est un effet de meute, ça, si on peut le dire.
Ça part de j'ai remarqué dans mon entourage, la plupart, ils l'ont toutes déjà fait au moins de leur côté. Et après, bah, du coup, le mec qui demande « Ah oui, tu veux un coup de main ?» C'est comme si c'est tendre une perche, en fait, pour elle. Alors que non, pas du tout. C'est mettre deux coups de pied.
Est-ce que vous, je crois que ce que je n'ai pas vu dans le documentaire, Clarisse Verrier, c'est combien ils prennent sur...
Bah ça a l'air variable en fait, ouais. Ça dépend des réseaux. Ça parfois ça a l'air d'être des proxénètes qui sont en tout petit réseau. Parfois ils sont repris par des gros réseaux. Il y a aussi des filles parmi les proxénètes. Hein. On sait même ouais. Stella dit à un moment qu'elle a été aussi rabatteuse ouais, parfois. Ouais, enfin ouais. Donc c'est
ouais,
des.
C'est...
Moi en tout cas ce que je vois aujourd'hui c'est que Stella elle a des cicatrices. Elle nous parle d'attaque au cutter. Enfin on n'est ouais. pas dans la petite rigolade avec ces proxénètes. Non. En tout cas c'est pas des petits gars comme ça. Voilà, ils ouais, deviennent.
Non, et puis, quand vous racontez, peu, je ne sais pas si c'est celle-là qui a fait pratiquement le tour du monde.
C'est elle. C'est toi.
J'entendais la liste des pays où vous êtes allée. Et là, c'est une organisation aussi.
Oui, on va dire ça comme ça. Ben, en fait, avec l'argent qu'on se faisait, la première chose qu'on y pensait dès qu'on avait fini, c'était oui, on veut aller là, on veut voyager là-bas, on veut s'acheter ça, on veut faire ci, on veut
mais
faire
c'était
cela.
C'était pas de la prostitution à l'étranger
À Dubaï
pouvait...
ici
ouais. Non, pas dans ce genre de pays, on va dire, en restant, enfin, quoi qu'il arrive, dans l'Europe, oui, mais ailleurs, non. Ailleurs, le non. reste, c'était plus des vacances, des choses comme ça. Ouais. Mais c'était tout de suite l'idée de, oui, on a fait tant, donc là, on aimerait faire ça, on aimerait faire ça.
Et à aucun moment, votre maman s'aperçoit que, d'un seul coup, il y a des chaussures Chanel, qu'il y a des choses, comment on arrive à cacher ça à sa mère ?
Justement, c'est là où le « i » qui vient, où ça tourne. C'est partout pareil. C'est toutes les personnes qui sont placées, en fait, elles se laissent facilement avoir.
Placées en foyer.
Placées en foyer. Ouais. Voilà, donc à cette époque-là, j'étais placée. Donc du coup, ma en mère, je lui donnais plus le montant de mon argent de poche du foyer exprès ouais. pour qu'elle ait un petit peu. Enfin, j'essayais en gros, mais je ne voulais pas lui donner ouais. le reste parce que ça paraissait louche.
Beaucoup trop important. Ouais. Et vous êtes sûre de ne pas retomber, replonger ?
Sûre et certaine. Maintenant, je travaille, ça va mieux. Je préfère prendre mon temps et gagner ma vie comme tout le monde que d'être là à me dire ah bon, aujourd'hui j'écarte les jambes combien de fois, des choses comme
c'était
ça.
C'était combien d'hommes parfois en une journée ?
Alors franchement, j'y allais à l'époque. Ça pouvait aller de... en une journée, enfin je dirais même la journée et la nuit et du la coup, nuit, ouais. donc ça dépendait de ma motivation, mais ça pouvait tourner jusqu'à les 20 personnes.
20 ?
Ouais.
Ouais, vous racontez très effectivement rapide, une journée, une c'était nuit très, et parfois la matinée.
Oui, ouais. voilà, c'est ça. Donc ça pouvait être un 24 heures non-stop.
Mais tu
ne
pouvais pas
matinée.
Tenir sans prendre.
Oui, c'est ça.
Ah bah justement, ce qu'ils aiment bien proposer, les Macs, c'est un peu de coke ou du shit pour celles qui fument ou des choses comme ça. Et moi, j'étais fumeuse. Ouais. Donc du coup, il me suffisait juste d'un 10, entre guillemets. Et voilà, ma soirée a été faite.
Une vingtaine de joints ouais. par jour quand même.
Ouais.
C'est
ouais.
ça
ouais.
Et puis, moi, ce qui m'a frappé aussi, c'était que ces filles, dont toi, racontaient qu'elles essayaient parfois d'aller en cours quand même. Donc, elles sortaient de l'école. Ouais. Elles se reposaient à la sortie des cours.
Oui, on avait un rythme. C'était marrant, mais on avait un
elle m'avait dit parfois, voilà. les filles vont prendre leur goûter, elles rentrent chez leurs parents, elles font leurs devoirs, et moi, j'allais me prostituer. Ouais. T'es en troisième, non c'est ça
oui, c'est ça.
À ne pas manquer, donc, dimanche, zone interdite, cette enquête sur la prostitution adolescente. Merci beaucoup d'avoir été là. Donc, réalisée par Clarisse Verrier, maître Bourbier, on vous voit, on vous retrouve dans le documentaire. Et puis Stella, on vous souhaite bonne chance, bonne route et de tenir bon. Et merci d'être venu. Merci à vous. On se retrouve, nous, dans un instant pour commenter l'actualité.